Et donc je m'appelle Paul, c'est le prénom comme il est donné au Liban. Je n'ai pas changé parce que les gens pensent qu'on change de prénom, donc c'est Paul. Quand vous rencontrez des orientaux qui ont des prénoms européens, ça signifie qu'ils sont chrétiens. Donc on porte des prénoms européens, peut-être moins dans d'autres pays arabes où vraiment le mouvement panarabisme a pu régner, comme en Syrie, en Irak. Donc les chrétiens perdent de plus en plus le prénom, je dirais, occidental. Et dans certains pays arabes, c'est carrément interdit de donner un prénom qui n'est pas vraiment, qui vient pas de l'arabe. Comme par exemple l'Égypte ou bien le Maroc, c'est à titre d'exemple. Donc je m'appelle Paul et le nom de famille c'est Abu Naoum. Bien, je le prononce en arabe, c'est Abu Naoum. Donc c'est le Aïn. Alors on ne sait pas très bien donc qu'est-ce que ça signifie, mais probablement, comme je viens de citer notre père en langue araméenne, ce sont des familles araméennes certainement. Tous les chrétiens de l'Orient, avec une petite minorité, sont des aramophones, sauf à la courte qui parlait grec. Et avec l'arrivée de l'islam, et avec la charia de l'islam qui met les gens du livre devant trois propositions, une des propositions c'est de payer la démitude et rester chrétien. À mon avis, on fait partie de cette catégorie qui est restée chrétienne, mais on doit arabiser tout ce qu'il faut pour ne pas déranger le public musulman de majorité. Donc il paraît qu'on était Ben Nahoum. Ben signifie le fils. Nahum, c'est le prophète Nahum, Nahum, donc que vous avez en langue française. C'est une des propositions, mais certainement ce n'était pas Abu. Abu, c'est venu avec l'arrivée de l'islam, notamment en Turquie ou bien au Liban. Donc, c'est des petits détails qu'on va reprendre peu à peu. Donc, je suis prêtre maronite. Je ne vais pas vous compliquer la vie, mais voilà, je dois le dire. Mon papa, il est byzantin catholique, donc il appartient à l'église melkite byzantine catholique. Vous allez avoir une conférence sur ça, bien non? Sur les Melkites? Non, dommage. Donc mon papa, il est byzantin Melkite catholique. Et donc ça signifie que nos origines viennent certainement de la côte de l'Orient, du Levant, peut-être Turquie actuelle. Et maman, elle est maronite. Et donc j'étais né dans cette ambiance mixte. Et donc à l'âge de 23 ans, ce qui était trop bizarre à l'époque, il n'y a pas trop longtemps, 20 ans, d'entrer à la vie religieuse à cet âge au Liban, c'était à quelqu'un âgé. Et donc, ils ont fait une réunion pour dire est-ce qu'on l'accepte, on l'accepte pas, surtout que je venais, ayant déjà fait un master en sciences politiques, que j'ai fait des études en Irlande, en Italie, donc pour eux, c'était, voilà, il faut étudier son cas. Tous mes collègues étaient, bien mes confrères étaient de l'âge de 17 ans, 18 ans, 20 ans maximum, voilà. Maintenant, ça a changé, heureusement. Et donc, papa byzantin, melkite catholique, maman est maronite. J'étais né dans une ville qui s'appelle Zahlé, donc c'est pas très connu, mais c'est une ville exceptionnelle au niveau chrétien pour deux causes. D'abord, Zahlé, c'est la plus grande ville chrétienne qui reste chrétienne dans tout le monde arabo-musulman. Elle est chrétienne à 100%, la plus grande du monde arabe. Et deuxième spécificité, c'est qu'il y a toutes sortes d'églises. Donc, dedans, si je veux énumérer, je serai perdu. Et c'est la seule ville où le clergé catholique, orthodoxe, non chalcédonien, on participe à tous les rituels sans demander la permission du curé. C'est-à-dire que si je vais dans ma ville à un mariage chez les Syriaques orthodoxes, j'attends pas au fond de l'église qu'ils me disent: Ah, Père Paul, avance, tu peux qu'on célébrer. J'avance automatiquement avec mes habits catholiques, il n'y a pas de souci, et vice-versa. Et ça va aussi jusqu'à la communion. Jusqu'à la communion. Alors là, il y a. Donc c'est la seule ville. Et dès qu'on sort de cette ville, on fait très attention à ne pas dépasser les lois canoniques, catholiques, orthodoxes, et on demande l'avis. Donc ces deux spécificités, et notamment on voit ça dans la fête du Saint-Sacrement qu'on fait chaque année, on voit tous les évêques autour du Saint-Sacrement qui circulent dans la ville pour bénir les gens et finissent sur le même autel pour célébrer ensemble. Parfois, il y a quelques exceptions, mais tout de suite, ces prêtres-là, ou bien ces évêques, ils sont mis à leur place parce que la mentalité de la ville n'accepte pas qu'il y aurait des différences. Voilà. J'étais entré à la vie religieuse monastique maronite. Mon ordre monastique s'appelle l'ordre Antonin Maronite. On a trois ordres monastiques dans l'église maronite. Vous connaissez certainement les moines de Boisseigneur Isaac. Ce sont les moines, ils s'appellent l'ordre libanais maronite. Nous, on est l'ordre Antonin maronite et il reste un troisième, ça s'appelle l'ordre mariste ou bien mariamite maronite. Ce sont trois ordres d'ordre épiscopal, d'ordre pontifical et on a d'autres congrégations, donc d'ordre patriarcal ou bien épiscopal local. Voilà, donc ça c'est. Donc je suis moine de cet ordre-là et donc. Et je suis le seul, bah, je parle un petit peu de moi-même, je suis obligé parce que pour vous mettre dans l'ambiance. Donc je suis le premier, était le dernier cas de l'histoire de l'Église catholique d'être ordonné selon mon rite. C'est-à-dire que je suis Melkite byzantin parce que mon papa il est Melkite byzantin. Je suis entré dans une vie monastique dans un ordre maronite. Normalement je dois être ordonné maronite, mais je fais la pression et ça a tardé mon ordination d'un an pour que je puisse être ordonné Melkite catholique. Même dans un ordre maronite. Pourquoi ? Parce que les latins, qui sont en Orient, ils peuvent ordonner leur prêtre selon le rite de leur famille, mais ce droit n'est pas accordé aux orientaux, et je trouvais ça injuste, et donc j'ai insisté, et malheureusement, personne d'autre n'a fait ça après moi, donc je suis birituel, et avec l'arrivée en Belgique, j'ai servi pendant 5 ans le monde latin, donc je suis, est-ce qu'on peut dire, tri-rituel, je ne sais pas, donc voilà. Et dans ma ville, parce que je n'avais pas une paroisse, j'étais prêtre, j'étais directeur d'école, je servais pendant Noël et Pâques chez les orthodoxes, les grecs orthodoxes, je faisais la messe, la communion, les rituels, parce que le prêtre n'avait pas des gens qui l'aident. Donc des exceptions donc, au niveau ecclésiastique, mais ça marche parfois dans certaines villes en Orient. Actuellement en Belgique, je m'occupe de la paroisse maronite qui se trouve à Saint-Adrien à Ixelles. Donc c'est la paroisse maronite, elle n'est pas la seule. On a une autre paroisse à Liège, tenue par un autre prêtre syrien maronite. Donc ma paroisse, elle est très grande. Donc si vous voulez, à Pâques, on met 1000 hosties et les 1000 partent. Donc il y a beaucoup de monde. Pas tous les dimanches, mais moyennement tous les dimanches, entre 300 et 500 qui viennent de façon assidue. Et quand on dit maronite, il ne faut pas penser que tout le public est maronite. Donc je vais évoquer cette question parce que c'est propre à l'Orient. Les conflits politiques de l'Orient influencent sur la vie ecclésiastique, ce qui fait que les conflits entre les Palestiniens, Israéliens, Syriens, Libanais, je ne sais pas, Égyptiens, Palestiniens, Jordaniens, je ne sais pas, Palestiniens, ça influence du coup que les Orientaux en Belgique et partout dans le monde, ils sont répartis en nationalités. C'est que tous les Libanais viennent chez moi, s'ils sont orthodoxes, protestants, catholiques, non-calcédoniens, voilà, bien église de concile, ils viennent chez moi. Tous les Syriens majoritairement vont chez les Melkites catholiques, et en partie chez les Syriaques catholiques ou bien orthodoxes. Et il y a chez les Chaldéens, les Turcs qui vont là-bas, donc malheureusement c'est réparti comme ça. Parce que même les Turcs ne supportent pas trop les gens qui parlent arabe. Et donc, voyez, il faut dire les choses telles quelles. On essaye de changer un petit peu. En arrivant à la paroisse maronite, j'ai changé le nom de la paroisse de Notre-Dame du Liban. Je l'ai mis paroisse Saint-Maroun pour dire que c'est une identité ecclésiastique à part et pour un peu détacher le nationalisme libanais derrière. Mais ça ne marche pas, rien à faire. Ça reste trop libanais. Et c'est pour ça, vous voyez, dans mon propos, je parle quand même beaucoup du Liban. C'est inévitable, c'est comme un jumeau, l'église maronite et le Liban. En même temps, j'ai un petit chapeau donc latin, à part les paroisses que j'ai servies à Wallin pendant 5 ans. Actuellement, donc le cardinal m'a demandé d'être délégué de la conférence des évêques belges pour les relations avec l'islam et donc comme un conseiller pour la conférence des évêques belges parce que j'ai fait des études en islam et aussi mon master porté sur l'islam politique. Donc du coup, je connais un peu le monde arabo-musulman au niveau politique et dogmatique. Voilà. Donc notre sujet, donc après ça, vous savez de quoi je traite. Donc je traite de l'église maronite, donc l'église de maman, mais c'est pas l'église de mon papa, voilà. Donc, mais je suis content d'être dans cette église. Donc c'est une église antiochienne. Donc j'imagine que vous avez fait un cours un peu global. Donc vous avez, il y a 4 patriarcats, il y en a 4 qui étaient formés par des successeurs des apôtres, mais des apôtres eux-mêmes, mais une 5e qui était créée suite aux circonstances politiques, celle de Constantinople. Mais donc la maronite n'a rien à faire avec ces autres-là, que juste elle est antiochienne. Donc quand on dit antiochienne, donc, il y a toute une spiritualité dedans, le facteur linguistique, donc notamment l'araméen, qui était parlé par les gens à cette époque. Mais pas seulement. Donc, je répète que la côte, surtout à Antioche, parlait grec, mais pas trop. Donc, juste 7-10 km de la côte, c'était déjà araméen. Donc, la majorité parlait araméen, à savoir que l'araméen a été utilisé jusqu'à l'Iran de nos jours, Afghanistan, partie de Pakistan. Vous savez, la cour royale perse parlait araméen dans la cour, mais avec les gens parlait la langue persane. Un peu comme la famille anglaise, donc le français qui était très utilisé dans les cours, mais en public c'est l'anglais. Donc c'était une langue officielle, culturelle, et que tout le monde parlait. Vous savez que Jésus parlait araméen et l'hébreu c'était juste dans les synagogues et à peine. Donc c'est une église antiochienne. C'est la seule église qui porte un nom officiel qui vient d'une personne. Donc c'est Saint Maron. Sur les papiers, donc, j'ai mis donc, le nom de l'église qui vient d'un nom d'un moine qui s'appelle Maroun, et j'ai mis entre guillemets, donc vous voyez le U, parce que sur les sites internet et partout, on l'appelle Saint Maron. Moi, je dirais, je suis de tendance de respecter les prénoms, parce que, notamment dans la Bible, donc je dirais que c'est parfois tout le sens du passage, ça vient du prénom de la personne qu'on traite, et on change. Parfois, quand je lis la Bible en langue non araméenne ou bien même en langue surtout le français parce que là je suis francophone plutôt, donc je ne comprends pas qu'on traite de cette personne là on change complètement les noms. Donc je dirais que j'aimerais bien, même ma paroisse, j'ai dit au cardinal, on la nomme Maroun, donc M-A-R-O-U-N, parce qu'il s'appelle Mor Maroun, hein. Il s'appelle Mor, signifie le Seigneur ou bien le Saint ou bien voilà, le Seigneur. Mor Maroun signifie, c'est son prénom, Maroun. Donc moi je l'écris Maroun, donc pas Maroun. Donc on n'a pas beaucoup de références sur sa vie, sur seulement deux attestations, une qui vient de Théodore de Cyr, donc c'était un évêque, si on peut dire, de l'éparchie, bien de diocèse de Cyrus, donc c'est la région de la Syrie actuelle, pas loin d'Antioche, qui a écrit, suite à la demande de l'empereur, d'écrire un livre sur la vie monastique dans son diocèse, si on peut dire. Donc il se promenait entre les moines à l'époque, et il paraît qu'il était très attiré par la vie de Saint Maroun, de Mar Maroun, dans lequel il lui donne beaucoup d'appellations, genre le grand moine, ou bien le moine héroïque, ou bien parfois l'image de Dieu, vous voyez. Donc c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui vivait parmi ces moines. Et ces moines-là, notamment, pas tous, mais la majorité, c'était un système de vie monastique ou bien ascétique très dur. C'est la vie en plein air. Donc la vie en plein air, des gens qui choisissaient vivre éloignés des gens en plein air, donc en supportant la chaleur de la plaine de la Syrie et aussi donc le froid glacial pendant les nuits, toujours en plein air. Il y a des gens qui ont voulu être devant les gens, donc ils choisissaient des endroits publics pour vivre cet ascétisme devant tout le monde comme un exemple. Et il y a d'autres, on les appelle les stylites, donc ceux qui vivaient sur des stèles, donc devant tout le monde ou bien reculés du monde. Donc ça c'était un style de vie ascétique très dur. C'est pas le sujet, mais quand même je vois que vous êtes un public donc éduqué, vous cherchez la culture, donc la vie monastique, c'est moi qui parle, je suis pas spécialiste, je suis pas historien non plus, vie religieuse, mais je donne un petit peu mon avis. Peut-être le mot monastique ne colle pas à la vie orientale monastique, parce qu'on connaît pas la vie seule, donc on n'a pas de vie seule actuellement. Les moines, je suis moine, vous voyez, je suis moine, et donc la vie monastique orientale, elle est toujours attachée à la vie apostolique. On voit pas la différence. Il n'y a pas Saint Charbel que vous connaissez, il vivait en communauté. Il avait des paroisses, il avait l'accueil des gens, il parlait aux gens. Donc, il ne faut pas coller la vie monastique occidentale, monos tout seul, sur la vie monastique orientale. Il y a quelques différences au niveau quotidien de la vie. Et donc, c'était la vie monastique en groupe. Et donc, on a ces deux attestations, donc de Théodore de Cyr et de Saint Jean Chrysostome, qui a écrit une lettre de Constantinople, dans laquelle il cite Saint Maroun en lui disant « Tu nous manques et nous te portons dans nos prières, prie pour nous ». Donc, deux petits passages sur Saint Maroun qui attestent de son historicité. Alors, qui est Saint Maroun? Donc, il a vécu à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle. Donc, il n'y a pas de date précise, ce sont des estimations. On pense qu'il est décédé dans les années plus ou moins 410. Et donc c'est un saint chalcédonien. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est très important. C'est le concile de Chalcédoine qui était à la base de la création, ou bien de la poussée, ou bien de la création de l'église maronite. Donc c'est un saint chalcédonien. Je vous rappelle le concile de Chalcédoine. Donc c'est le concile qui a promulgué les deux natures, que Jésus a deux natures divines et humaines, qui était contesté par les monophysites qui parlaient d'une seule nature, et donc c'était pas passé de façon paisible. Il y a eu beaucoup de guerres ou bien des massacres suite à ce schisme dogmatique entre les deux partisans. Donc c'est un saint chalcédonien qui a adopté le dogme du concile de Chalcédoine. Et donc comme je l'ai dit, donc il a mené une vie ascétique dans l'air. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu adopter ce qui était un peu à la mode à l'époque. Il faut revenir donc presque 1600 ans. Il y avait toujours les temples païens. Et il y avait toujours les prêtres des païens. Il y avait toujours les adorations qu'on donnait à Adonis, à Astarté, notamment la région là-bas, entre autres. Donc Baal, ou bien Nebo. Et donc il y avait cette tendance chez les moines chrétiens de christianiser les païens, notamment... pas seulement en baptisant les païens, mais en détruisant les temples, donc pour éliminer toute trace du paganisme. Donc, on ne sait pas très bien, mais je vais vous donner, est-ce qu'il a vécu à Kfar Nebo ou bien il a vécu à... On ne sait pas très bien, mais c'est à Sir, certainement dans le diocèse de Théodoré, probablement à Kfar Nebo. Kfar Nebo, c'est un mot araméen, Kfar, le village, ou bien le bourg, et Nebo, ça pourrait signifier le Seigneur, c'est un des dieux païens. Et donc, il a convaincu les gens de Kfar Nebo, qui étaient païens, de le suivre. Et on ne sait pas très bien comment, mais il paraît qu'il avait le don de guérison. Il guérissait les gens, et ce qui fait qu'il est devenu très populaire. Les gens l'ont cru, l'ont suivi, et il a pu convaincre les gens de Kfar Nebo de, ensemble, détruire le temple de Nebo, qui était dans Kfar Nebo. Et jusqu'à nos jours, j'ai eu la chance de voir ça. On voit que l'église à Kfar Nebo, on voit très bien qu'il y a des fondations qui date depuis longtemps, et c'est le cas qu'on voit. Ah, j'ai pas mis là, excusez-moi. Donc, il est quelle heure déjà? Il y a encore 5 minutes. Voilà. Donc, et donc, quand vous allez dans les pays de Proche-Orient, dans les monastères, notamment on voit nos monastères, elles sont presque toutes construites sur des ruines des temples païens qu'on voit toujours, les fondations, parfois les salons, les chapelles, on les voit toujours des temps des païens. Et donc il a convaincu les gens, donc il a mené cette vie, il est devenu très populaire. Et donc après il est décédé. On raconte qu'il y a eu un petit combat entre les gens de Kfar Nebo et les gens de Breda. Donc Breda, c'est un nom d'un petit village en Syrie tous les deux. Donc Kfar Nebo, c'est en Syrie. Breda, c'est dans la région d'Alep en fait, hein, c'est un peu ce côté-là. Et donc il y a eu un conflit qui va prendre le corps, mais vu que les gens de Breda étaient plus nombreux, et c'était un peu la commune qui dirigeait les autres, un peu comme en Belgique, donc la commune, le village principal, donc ils ont pu prendre le corps de Saint Maroun et l'enterrer à Breda. Pourquoi je cite Breda? Parce que jusqu'à il y a quelques années d'ici, il y a 10 ans, 15 ans d'ici, les Maronites n'entendaient pas parler de Breda. D'abord c'est en Syrie. Entre parenthèses, donc malheureusement on n'est pas fier de ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas la Syrie, les Maronites et des Libanais qui ne supportent pas la Syrie du tout. Donc du coup, il y a des Libanais qui n'ont jamais mis les pieds en Syrie. Je vous dis que moi, j'ai de la famille en Syrie, à Damas, à Alep. Et quand on allait en Syrie pour rendre visite à ma tante, mes cousines, on ne disait pas, on ne parlait pas, parce qu'on avait peur d'être taxé d'être traître ou bien d'être des gens qui empiètent les martyrs qui sont tués par le régime du papa de Bachar al-Hafiz al-Assad, qui a occupé le pays. Donc, un autre sujet, mais bon, voilà, pour vous dire. Donc, Breda s'est connu après les années 2005, après le retrait syrien du Liban. Donc, un certain dirigeant politicien qui est devenu président actuellement, le général Michel Aoun, est allé en Syrie. Il a célébré, il a fait une messe là-bas. Et donc, même le patriarche maronite s'est rendu là-bas. Et ce sont des pas très courageux parce que je vous dis que quand le patriarche a décidé d'aller en Syrie, il y a eu beaucoup de polémiques contre lui de la part des Maronites et des Libanais. Comment tu vas sur la terre du pays qui nous a occupés? Donc je pense que vous connaissez un peu l'histoire. L'armée syrienne est restée au Liban de 75 jusqu'à 90 de façon guerrière. Et elle s'est retirée de 90 jusqu'à 2005, une présence, une occupation claire et nette. Il y a des gens qui vont dire c'est une présence. Non, il faut dire les choses. Donc c'est une occupation. Ils ont fait des choses terribles. Et donc, c'est pas pour autant pour détester les Syriens, mais là on parle au niveau politique. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ne digèrent pas facilement que le patriarche aille en Syrie. C'est un peu comme si on prend l'exemple européen, supposant qu'en 1950, notre roi ici se rend en Allemagne et se met dans les bras de, je sais pas, le dirigeant à l'époque, ça pourrait pas être digéré facilement par les gens qui n'auraient pas encore oublié les atrocités du régime nazi, entre guillemets, voilà, donc pour vous dire un peu la comparaison. Et donc Breda, donc il est enterré là-bas, et récemment, donc on sait très bien qu'il est là-bas, et il paraît que selon les fouilles, c'est vrai, son tombeau, il est à Breda.
Paul, oui. Vous préférez le micro fixe?
Est-ce que, parce que je voyais que ma voix n'était pas très claire, ou bien c'était...
Non, c'était bon,
c'était très bien.
Ah, ben
c'était très bien.
Fixe,
c'est très
bien. Si vous prenez le fixe, je vais l'allumer.
Donc, ça c'est pas de l'araméen, ça c'est... Sa vie monastique était très connue et donc plusieurs gens l'ont adoptée et l'ont suivie, et des femmes. Donc il y a eu des femmes, Marina, Karina, Karia, Sarah, donc on connaît quelques femmes qui l'ont suivie et qui ont adopté, pas sa vie monastique, mais son idéologie religieuse, notamment chalcédonienne. Donc n'oubliez pas ce point du concile de chalcédonien. Et donc, on a commencé à appeler ces gens-là qui sont partisans de sa théologie, de sa vie. On a commencé à les appeler les Maronites suite à Saint Maron. Après, donc, il décède et les partisans, notamment les moines qui l'ont suivi, ils ont voulu suivre son chemin. On ne connaît pas beaucoup de noms, mais il y a deux qui ont marqué l'histoire. C'est un certain Ibrahim, ou bien Abraham de Cyre, qui est allé au Liban. Vous savez, donc, il y avait une concentration de temples sur la côte, hein, c'est normal parce que c'est proche de la mer. Puisque vous allez vers l'intérieur, les païens avaient moins de temples, donc, mais c'est tout les collines qui donnent à la mer. Donc il y avait à l'époque l'adoration d'Adonis à Astarté, donc au Liban, jusqu'à nos jours, il y a des gens de Byblos qui célèbrent cette fête-là, de façon traditionnelle. Et donc un certain Abraham de Tyr est allé à la montagne de Adonis. C'est une région qui s'appelle Byblos de nos jours, Jbeil, Byblos, la deuxième plus ancienne ville habitée du monde de façon ininterrompue après Jéricho. Et donc il s'est installé là-bas et il a pu convaincre les gens de détruire le temple d'Adonis. Donc de nos jours, quand vous allez là-bas, il y a toujours le temple d'Adonis bien conservé avec le temple, un peu les ablutions. Mais on va à côté tout de suite des monastères et à côté, et il y a toujours le premier patriarcat maronite planté au Liban au Xe siècle. Mais non, maintenant restant donc au temps un peu avant, un deuxième partisan de Saint-Maron s'appelle Siméon le Stylite. On ne sait pas très bien, mais évidemment, ce n'est pas le fameux Siméon le Stylite, ce n'est pas le fameux qui est à Alep. Certainement, il y aurait quelqu'un qui s'appelle Siméon de nouveau et qui avait adopté le vie d'être en plein air sur un stèle, qui est allé là-bas vers le nord du Liban, mais cette fois-ci dans la région de la forêt des cèdres du Liban, un petit forêt qui reste, les cèdres, on les appelle cèdres de Dieu, et là-bas donc il y avait l'adoration des dieux païens qu'il a pu aussi pousser et convertir la région et qui sont devenus des Maronites. Voyez, donc c'est un petit peu ça, l'expansion de la vie de ce saint avec ses partisans. Alors, à l'époque, donc revenons un petit peu, là je suis un peu allé un peu en avant, donc revenons au 5e siècle avec le concile de Chalcédoine qui a promulgué que Jésus est la deux natures divine et humaine. C'était pas l'anonymat, bien ce n'était pas en fait l'unanimité de tous les chrétiens de l'époque. Il y avait des gens qui n'ont pas accepté ce dogme-là. Pour quelles raisons? Donc notamment c'est la langue qui joue le rôle. Même de nos jours, parfois, j'explique aux gens comment la langue joue un rôle pour ne pas très bien comprendre les dogmes. Mais entre autres, peut-être aussi des conflits politiques, peu importe. Et donc, Saint Maron, il a adopté ce dogme-là. Ses partisans sont des gens du concile de Chalcédoine, donc ils croient aux deux natures de Jésus. Et l'empereur à l'époque, notamment les Byzantins, vous savez très bien, c'est eux qui faisaient les conciles en général, donc ils encourageaient les gens qui adoptent ce dogme-là pour garder leur pouvoir et pour que les gens soient en paix et que les décrets ou bien les résolutions du concile soient établies sur la terre. Donc il a poussé, il a pistonné les gens partisans de ce dogme-là, notamment les partisans de Saint-Maroun, en leur construisant une maison. Une maison du côté d'Apamé, donc du côté de, disons, entre Antioche et Alep. Donc il leur a aidé à faire une maison, un monastère, ça s'appelle Beit Maroun. Beit signifie maison, Beit Maroun, maison de Maroun. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens qui vivaient dedans, presque des centaines de moines, il paraît qu'ils dépassaient les 400 moines, sont tous des moines qui suivaient Maroun. Donc on ne peut pas dire moine maronite, mais plus ou moins c'est les partisans de Maroun. Et ce monastère-là est devenu comme un fief pour les partisans du dogme de deux natures contre les monophysites, donc ceux qui parlent d'une seule nature. Mais les choses n'étaient pas si paisibles que ça. À un certain moment, il y a eu un empereur qui a soutenu l'autre dogme pour un petit moment, ce qui a fait que les monophysites, donc ceux qui sont contre le dogme du concile de Chalcédoine, se sont renforcés et ils ont attaqué le monastère en tuant 350 moines. Donc l'église maronite célèbre toujours le 31 juillet la fête des 350 moines martyrs dans ce monastère-là, à Apamé, en Syrie, entre Alep et Antioche. Et aussi, donc, après, donc, de nouveau, les circonstances politiques font que l'empereur soutient de nouveau ce dogme-là. Donc on a restitué le monastère en le renforçant, en faisant un mur pour le soutenir. Mais après aussi, donc, les monophysites, suite à une amitié avec la femme de l'empereur, ils ont pu s'emparer du monastère et le détruire de nouveau en tuant presque 150 moines. De nouveau, donc voilà, le conflit de ces dogmatiques. Arrive le concile de Constantinople, et donc qui a pu calmer les choses, parce que c'est toujours l'empereur qui règne et qui impose des choses. Donc ce concile vient au 6e siècle. Le temps de paix n'a pas duré très longtemps parce qu'on a eu deux phénomènes ou bien deux facteurs qui sont parvenus. L'invasion perse pour la région. N'oubliez pas que les Perses, ils ont ravagé Jérusalem, ils ont détruit presque toute la côte, y compris le monastère de Saint-Maroun de nouveau, parce qu'il n'était pas chrétien, entre guillemets. Et quelques années plus tard, il y a eu l'arrivée de l'islam. L'arrivée de l'islam, et donc, comme vous voyez sur le papier, je ne sais plus en fait où est-ce que j'écris ça, mais donc, c'est très délicat quand on fait des conférences en Europe ou bien dans certains pays. Est-ce qu'on va parler de l'invasion musulmane ou bien expansion musulmane ? Je laisse la liberté à quelqu'un, mais il y a l'histoire qui est très claire derrière, et il faut que chacun se réconcilie avec son passé et dire les choses telles quelles. Et donc, avec l'arrivée de l'islam à la région, il y a eu aussi, donc, comme vous le savez, plusieurs monastères ont été détruits, des églises, des communautés religieuses, ce qui fait qu'on a transféré ce monastère au Liban. Mais pas le bâtiment, mais je dirais la communauté. Donc c'est plus ou moins vers le 10e siècle. Au départ, il n'y a pas eu des persécutions très fortes, ils sont restés, mais vers plus ou moins 1939, on a transféré cette communauté vers le Liban, dans la région de Jbeil, Byblos, hein, dans la région de Byblos. Et ce qui s'est passé rapidement, il y a eu une vacance dans le siège d'Antioche suite à deux conflits dogmatiques et donc l'arrivée de l'islam. Il n'y a plus eu un patriarche sur Antioche, il y a eu vacance pendant dizaines d'années, je pense 70 ans de vacances. Et donc, et le patriarche d'Antioche n'existait pas, en fait, il y avait juste le siège, mais sans patriarche, ce qui fait que la communauté maronite de Beit Maroun s'est réunie, et elle a élu un patriarche, évidemment, maronite, sur le siège, et par le soutien du pape, pour imposer et pour soutenir le dogme de Chalcédoine et de Constantinople, les deux conciles, et que ce n'était pas vraiment le cas, et donc... pour les monophysites qui ne voulaient pas ce dogme-là. Et du coup, dorénavant, on a deux patriarches sur le siège d'Antioche, un patriarche monophysite et un patriarche, si on peut dire, chalcédonien, on ne peut pas dire catholique, mais à l'époque, il n'y avait pas catholique orthodoxe, mais donc il y avait deux patriarches en même temps sur le siège, mais qui n'a pas siégé à Antioche pour des raisons, donc l'arrivée de l'islam et aussi les conflits avec les monophysites. Mais il a siégé au Liban, donc il a siégé au Liban et c'était considéré comme le vrai patriarche successeur de Pierre sur le siège d'Antioche. Jusqu'à ici, donc je pense que c'est pas très compliqué. Je parle de ce sujet parce que parfois les maronites sont accusés d'avoir créé une église dans le ciel, hein, qu'il n'y a pas une légitimité, mais l'histoire a montré il n'y a pas longtemps, avec quelques recherches récemment, que non, il y a eu cette création du patriarcat et que c'est grâce à cette élection d'un évêque ou bien d'un prêtre de cette communauté maronite qu'il y a eu cette succession de dogmatique des cinq premiers conciles sur Antioche. Et donc, maintenant, donc, on a quitté la Syrie, les maronites se transfèrent au Liban, sur les montagnes libanaises, et donc, au départ, à Byblos, donc au milieu du pays, après les persécutions arrivées de l'islam de nouveau, ils ont dû déménager vers le nord du Liban, dans une vallée qui s'appelle vallée de Kanoubin, ou bien la vallée sainte, très fameuse. Ils ont dû se réfugier dedans et se cacher dans la vallée contre les persécutions, notamment ottomanes, et donc... si je ne me trompe pas, c'était vers 1440. Ils sont restés là-bas des centaines d'années, cachés dans les rochers, où ils ont fait la vallée comme une sorte d'une grande communauté monastique. Que même Lamartine, quand il décrit la vallée, il dit que le matin, quand il se levait, il voyait donc, la fumée de l'encens qui sortait de la vallée, tellement il s'était plein des gens ascétiques qui vivaient dans la vallée. Ils s'installent là-bas et pour défendre leur présence et leur dogme, on a formé, pas l'église mais les partisans, ils ont formé une petite armée, s'appelle Marada, ou bien Mérédite en français peut-être, Marada. Même de nos jours, il y a un certain parti politique qui s'appelle Marada. Marada sont des maronites de la montagne, bien imprégnés de la foi chrétienne calcédonienne. Ils voulaient défendre la présence du patriarche. Ils ont fait une armée de presque 30 000. Pour se défendre contre l'islam, contre les attaques musulmanes et contre les Byzantins. Et donc, ils ont réussi. Ce n'était pas des temps de paix, mais donc, ils ont pu résister et rester dans la vallée sans beaucoup d'expansion parce que c'était interdit. Il y avait les Byzantins qui occupaient la côte, mais les Maronites sont restés à l'intérieur du pays, notamment dans les montagnes. C'était une église avec un patriarche, des évêques, des prêtres, des paroisses, des partisans. Parfois en paix, parfois en guerre, ça dépend qui est le calife et qui est le dirigeant à l'époque, mais en général, je dirais 90% du temps, c'était persécution et cachette, on brûlait les évêques, on les massacrait, on cassait les églises, et donc c'était une église clandestine, persécutée. Ce qui a influencé sur sa spiritualité et son apparence physique. Donc là, on est sur la partie spiritualité de la première communauté maronite. Donc l'église maronite est très monastique. Vous savez, Maroun était moine, le premier patriarche était moine, tout est monastique. Et les gens vivaient autour des moines, partageaient la vie des moines, priaient avec les moines. Et cet aspect monastique, on le trouve toujours. Si vous allez au Liban, dans certains villages reculés, on dirait que le village, c'est un monastère ouvert. Les gens arrêtent de travailler à midi, font le chapelet ou bien ils récitent l'annonciation, la messe matinale, la prière du soir. Voyez, donc c'est une sorte d'un grand monastère dans certains villages. Hein, mais dans le passé, c'était quasiment tout le temps comme ça. Une pauvreté extrême. Donc les églises maronites, il n'y a rien. C'est juste des petits bâtiments sobres, de pierre taillée à la main, trop petits, pas trop de sculptures. Des images faites à la main, des peintures des gens, des amateurs, pas des grands artistes, très pauvres. La vie des évêques, pas de nos jours, mais des évêques et des prêtres à la création de l'Église, c'était très pauvre. Donc, et même la loi ou bien la tradition obligeait que même quand on devient patriarche ou bien évêque, on doit travailler la terre et donc garder la vie simple des gens. C'est pas la vie que plus tard c'est entré à la vie de certains prêtres et certains évêques, pauvreté alimentaire et une vie quotidienne imprégnée par la Bible. Donc on fait le carême, on ne mange pas la viande le mercredi, non plus le vendredi, et c'était la guerre entre mon papa et maman, que maman faisait toujours pas de viande mercredi, pas de viande vendredi. Lui disait, mais quel problème de me marier avec une maronite, des Byzantins, on n'a pas ça, donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Et une vie monastique et apostolique, donc on ne sépare pas, donc on n'a pas cette séparation qu'on trouve en Occident. Et en fait, moi, quand je suis entré dans l'ordre maronite, ayant une sœur qui est religieuse chez les Salésiennes de Don Bosco, donc l'ordre italien, occidental, bien organisé, et qu'elle parlait tout le temps le charisme de Don Bosco, c'est les jeunes, les pauvres, j'entre à l'ordre, j'ai dit au maître Mauricien, j'ai dit, mais c'est quoi notre charisme ? Ah, Père Paul, Paul, écoute, nous sommes passe-partout, donc on fait tout. Donc les moines, on a les écoles, les hôpitaux, les centres sportifs, on a des professeurs, même j'ai un confrère qui fait... Qui entraîne les gens à la salle de sport, on a un peu de tout, des terrains, on a un professeur, on fait tout. Où il y a le besoin, on est là-dedans pour servir, on n'a pas un charisme spécifique. Par exemple, actuellement dans mon ordre, on a deux ascètes, un de ma promotion qui a demandé de devenir ascétique, donc maintenant il vit seul, et mon maître de noviciat est devenu aussi, mon maître d'études philosophiques est devenu aussi ascète, il vit tout seul, mais toujours attaché à une communauté, pas loin de la communauté, donc on a un peu de tout. Et je suis paroissial, je travaille avec les évêques, donc je vis en Europe, habillé en civil, donc vous voyez, donc on est, il faut s'adapter aux besoins de l'église locale. Et donc la théologie, donc je dirais maronite, elle a quelques spécificités, mais j'avoue que il faut être spécialiste, c'est pas mon cas, pour comprendre les nuances entre l'Occident et l'Orient, mais on est tous chrétiens, on croit en Jésus-Christ, avec des petites nuances linguistiques parfois, mais pas vraiment. On a une chose qui est spécifique à cette église, c'est qu'on a la Bible Peshitta, ou bien Basita, ou bien Peshitto. C'est une traduction de la Bible, de l'hébreu, ou bien je pense du grec plutôt, en araméen, mais en un seul volume, sans séparer. Et donc c'était utilisé par les moines jusqu'à l'arrivée de l'influence latine sur l'Église. Vous savez que, je vais en parler plus tard, donc au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de les croisés, quand ils sont venus en Orient, ils étaient soutenus par les maronites, et même les maronites leur ont donné beaucoup de soldats pour combattre à Jérusalem. Donc il y a eu beaucoup d'influence latine pour être protégés, et aussi au niveau linguistique, au niveau des traductions, de la spiritualité. Et aussi au XVIIIe siècle, il y a eu une certaine respiration pour les maronites avec les relations qui étaient faites entre l'Europe et les Ottomans, et l'Europe, notamment la France, qui voulait avoir une main dans l'Orient, donc elle a pris les maronites comme un allié spécifique, et elle a pu créer un statut spécial pour les maronites qui se sont alliés aux Druzes. Donc c'est une religion qui vient d'un schisme dans l'islam, et donc on était alliés avec les Druzes. Les Druzes étaient les fondateurs du pays, avec leur émir Béchir, donc ils ont pu garder un statut spécial pour un peu être visible de nouveau, être public. Et on a pu avoir donc l'aide de l'Occident avec les missionnaires jésuites, franciscains, les ordres des Templiers par exemple, voyez donc, ou bien les ordres hospitaliers, ou bien, voyez donc, ils ont pu faire des écoles là-bas. Donc vous savez qu'au Liban, la plus grande université catholique, c'est pour les jésuites par exemple. Et donc cette relation entre l'Occident et l'Orient, les maronites, ils étaient vraiment les porteurs pour pouvoir s'émanciper un peu des régimes locaux, notamment du régime des Ottomans, qui était oppressif, notamment contre les non-musulmans sunnites. Et donc cette influence latine est très visible sur le rite maronite. Quand vous venez à la messe chez moi, si vous êtes les bienvenus, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc vous vous sentez un petit peu en rite latin. Sauf la langue, bien sûr, et la façon que je m'habille. Mais à part ça, c'est très proche du latin. C'est pas le cas chez les autres orientaux, parce que les autres orientaux catholiques, ils étaient tous orthodoxes jusqu'à il y a 3 siècles d'ici. Donc ils sont plus orientaux que nous, les maronites. Mais récemment, il y a 20 ans d'ici, il y a beaucoup d'essais, beaucoup de recherches menées par des moines et des prêtres et des gens de l'Occident pour redécouvrir cette spiritualité syriaque propre aux maronites, et l'insérer dans le rituel pour vraiment revivre notre tradition maronite. Voilà, maintenant on est au Liban, les maronites s'installent au Liban, et donc c'était sous plusieurs régimes, mais avaient toujours un statut spécial, parfois persécuté, parfois très bien, ça dépend des époques et qui est le calife ottoman qui règne, mais en général ils ont pu rester visibles dans la région, et ils étaient les pionniers, figurez-vous, dans le mouvement panarabique. Donc ils étaient les premiers à réclamer l'identité arabe pour la région. Est-ce que c'est par amour ou bien par protection? On ne sait pas très bien, il faut demander à quelqu'un spécialiste, mais je vous dis que oui, c'était un maronite qui demandait ce mouvement panarabique. À mon avis, c'était pour faire face à la turquinisation de la région. Donc il n'y avait pas moyen que soutenir la langue arabe, parler arabe. Je vous dis que les archives de Montliban, donc l'église maronite, étaient restées araméens jusqu'au XVIIIe siècle. Les gens parlaient araméen jusqu'à il y a 200 ans d'ici. Mais à mon avis, devant la pression ottomane, ils se sont mis de côté, entre guillemets, arabe. Ils ont soutenu ce courant panarabique face aux Ottomans qui étaient turcs pour vraiment garder une certaine indépendance. Les maronites sont les premiers qui ont fait venir l'imprimante arabe. Donc en lettres arabes dans la région, à côté de la syriaque. Et donc ils étaient des pionniers dans la culture locale, et plusieurs moines maronites travaillaient dans la cour des califats, dans la traduction, dans l'enseignement, et dans, donc, même dans le, comme conseiller politique. Pas seulement les maronites, mais aussi tous les orientaux, les autres orientaux. Quand les maronites ont quitté la Syrie vers le Liban, une partie est restée en Syrie, une partie au Liban, mais on a eu une persécution spécifique dans les années 1860, malheureusement. Grande partie des maronites s'échappent en Chypre et une partie à Malte, par l'aide des missionnaires occidentaux, notamment les franciscains et les jésuites, qui ont porté les gens vers ces deux régions-là. Et il y avait 72 villages en Chypre maronites, mais malheureusement, ils étaient tous persécutés un peu avant la guerre mondiale, et il y a eu un génocide contre eux. Dans tous ces 72 villages, il ne reste pas grand-chose des maronites, à part quelques bâtiments d'église que l'évêque de Chypre m'en a parlé, mais très très peu. Et les maronites de Malte se sont changés de rite, sont devenus latins, donc du coup on n'a plus de maronites à Malte. À Chypre, on a une très grande communauté, mais sans des gens qui ont pu s'échapper, mais les vrais qui sont réfugiés là-bas étaient persécutés. Après la guerre mondiale, et avec l'affaiblissement de l'Empire ottoman, qu'on appelait l'homme malade, et avec donc le désir de l'Occident de diviser l'Empire ottoman, et peut-être avec le désir de l'Église maronite d'avoir plus de puissance et d'avoir des terrains pour survivre, parce que jusqu'à 1918, la fin de la guerre mondiale, les maronites n'avaient que le mont Liban, donc il n'y avait aucun accès à la côte, juste les montagnes très très difficiles du Liban. Vous savez, c'est un pays très montagneux, beaucoup de montagnes jusqu'à 3000 mètres d'altitude, donc ce n'était pas évident donc, de vivre et survivre. Donc cette année, on est en 2019, nous fêtons l'anniversaire de 100 ans de la création du Grand Liban. Donc jusqu'à 1919, on avait le Mont Liban, un petit terrain qui n'a aucun accès à la côte, dirigé par un prince druze, donc musulman d'origine chiite, mais qui a quitté l'islam. C'est un schisme dans l'islam chiite, avec une très bonne entente entre les maronites et les druzes, sauf deux grands massacres, 1840-1860, qui ont marqué l'histoire, mais c'était toujours par des incitations étrangères. Le patriarche à l'époque, c'est ce que j'avais dit au père, donc père Bernard, donc mon avis personnel, voilà. À mon avis, le patriarche, par le soutien de la France, il a voulu agrandir son pouvoir. Et donc ils sont allés à une certaine rencontre en France, et ils ont demandé d'agrandir le Liban. Et donc à l'époque, le pouvoir français, il a pris le crayon, il a commencé à dessiner, et il a dit au patriarche, mais oui, mais tu veux combien? Il a commencé à monter, et il a mis Damas dans le Liban. Il a dit, attends, Damas, c'est la capitale de la Syrie, la capitale des Omeyyades, ils ne vont pas accepter. Alors qu'est-ce que tu veux? Donc ils ont commencé à tracer. Donc on a rajouté la plaine de la Bekaa, Tyr, Sidon, Beyrouth, la côte de Tripoli, on les a annexés au Liban, on a proclamé le Grand Liban. Par la force, hein, les gens ne voulaient pas. Jusqu'à nos jours, les gens de Tripoli, quand ils sont coincés par quelques problèmes politiques, ils montrent le drapeau syrien autant avant la République syrienne, donc le drapeau du mandat français, si vous voulez. Donc ils ne se sentent pas, voilà, je ne dis pas, c'était forcé. Donc, et il faut dire que peut-être donc l'avis de patriarche, c'était de faire donc le Grand Liban, la République libanaise, et avec tous ses composants, mais à l'unanimité de tous les historiens, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Et du coup, actuellement, le pays souffre de cette... on ne peut pas avoir une politique étrangère qui plaît à tous les Libanais, parce que nous sommes 18 communautés. Il y en a, je pense, 13 chrétiennes, 5 musulmanes. avec des tendances politiques très diversifiées. Si on prend l'exemple très flagrant, par exemple, si on prend les chiites du Liban avec leur parti et le Hezbollah, ou bien si on prend les sunnites avec leur parti Mustaqbal Futur, un, il est allié avec l'Iran, l'autre, il est allié avec l'Arabie Saoudite. Et comment vous allez concilier ces deux pays déjà qui sont toujours en tension depuis donc le schisme dans l'islam il y a 1400 ans, et ça influence sur la vie actuelle. Donc un autre souci, par exemple dans les écoles, et c'est mon domaine, vous savez, on n'a pas un livre d'histoire commun. On laisse à chaque école choisir son propre livre. Et ça dépend si l'école elle est catholique, ou bien orthodoxe, ou bien musulmane, sunnite, ou bien chiite. Chacun fait le livre qu'il veut. Chaque école a son livre. Donc un livre qui va dire l'invasion musulmane, l'autre qui va dire expansion musulmane, l'autre qui va dire l'arrivée de l'islam. Un livre qui va dire l'invasion des croisés, l'arrivée des croisés, bien expansion chrétienne occidentale. Voyez, donc chacun fait une lecture propre à lui de l'histoire, ce qui fait que ça dépend de quelle tendance religieuse on est, on lit l'histoire selon laquelle. Et donc voilà, donc cette année coïncide avec la création de la République libanaise. Et quand on l'a créé, il y a eu un petit souci, c'est que les maronites sont les plus nombreux. Je termine dans 10 minutes et je vous laisse la parole parce que c'est important. Et donc, celui qui a créé, c'est les Français. Ils ont agrandi le mont Liban en le faisant la République libanaise. En 1932, ils ont fait un recensement d'habitants et c'était estimé que la majorité des habitants du Liban, de la République libanaise, sont des chrétiens maronites. Et que les chrétiens sont les majorités, ils ont fait un système politique présidentiel. Donc jusqu'à les années 90, le Liban c'était comme l'Amérique. Le président de la République avait le plein pouvoir de dissoudre le Parlement, de faire ce qu'il veut, et il doit être maronite. Donc le président doit être maronite. Ce n'était pas écrit dans la Constitution, c'était l'entente nationale entre les chrétiens et les musulmans. Donc on a réparti les pouvoirs, le président doit être chrétien maronite, le chef de la Chambre des députés doit être musulman chiite, le chef, le premier ministre doit être sunnite. Les druzes n'ont pas un poste parce qu'ils sont très minoritaires. Mais ça, c'est pas écrit sur les papiers. Du coup, on a eu quelquefois des imams qui se présentaient aux élections présidentielles mais qui ne gagnaient pas parce qu'il y a l'entente nationale à respecter. Jusqu'à l'année 90, on a fait l'accord de Taïf, en principe, qui a arrêté la guerre armée au Liban. Et dans cet accord de Taïf qui était fait en Arabie Saoudite, vous avez compris, c'était fait où ? En Arabie Saoudite. On a transformé le pouvoir en pouvoir parlementaire comme en Europe, mais ça ne marche pas chez nous, parce qu'il y a cet équilibre confessionnel. Donc on a donné tout le pouvoir au Premier ministre, on a arraché le pouvoir au président, parce qu'on a dit le président c'est un peu comme le président de l'Allemagne, donc on ne le connaît même pas en fait, hein, il ne fait rien, donc juste Angela Merkel à l'époque qui faisait tout. Et donc ce qui a fait que l'église maronite, notamment par la bouche de Patriarche Sfer, n'a pas arrêté de parler de la dépression maronite. Des années 90 jusqu'à maintenant, on parle que les chrétiens n'ont plus le pouvoir, même si c'est divisé moitié-moitié, parce que cet accord de Taïf, après la guerre du Liban, il a divisé les régions électorales de façon à servir à un certain pouvoir pro-pays étrangers. Du coup, même les députés chrétiens qui arrivaient au pouvoir ne représentaient pas vraiment la voix des chrétiens dans le pays jusqu'à il y a quelques années. Donc on a fait, donc, je répète, un système confessionnel. Le président doit être maronite, chef de la chambre chiite, premier ministre sunnite. Et après, le Parlement, on le divise en deux. On a 128 députés, il y a moitié chrétiens, moitié musulmans. Donc on a 60... combien de députés on a ? Donc on a 64 sièges chrétiens, 64 musulmans. Sur les 64 sièges chrétiens, on a 34 maronites. Et le reste se répartissent entre grecs catholiques, grecs orthodoxes, syriaques, arméniens, donc tout étant chaldéens, assyriens, vous voyez. Et donc le reste des sièges, c'est entre les chiites, les sunnites, et les alaouites, les jafarites, vous voyez, dans toutes les autres tendances musulmanes. Et donc tout est divisé moitié-moitié. Par exemple, le chef de l'armée, il doit être maronite, mais si on a des joints, c'est un druze. Même les ambassadeurs, donc on divise moitié des ambassadeurs sont chrétiens, moitié musulmans. Un exemple sur la Belgique, donc il est chiite, parce que la majorité des Libanais qui sont en Belgique sont des chiites. Donc l'ambassadeur, il est chiite, mais son vicaire ou bien son adjoint doit être maronite, parce qu'il faut avoir un chrétien en face. L'ambassadeur du Liban en France est toujours maronite, à cause des relations entre le patriarcat maronite et la France. L'ambassadeur du Liban à Moscou doit être grec orthodoxe. L'ambassadeur aux Nations Unies en alterne, une fois musulman sunnite, une fois musulman catholique, une fois orthodoxe en alterne, donc voyez. Donc on fait comme ça, mais toujours, on va toujours faire l'équilibre à côté. Et donc c'est dans tous les domaines, hein. Donc même dans les communes, dans les ministères, dans les ministres, donc on fait tout. Jusqu'à il y a quelques années d'ici, et suite à la guerre du Liban de 75, les maronites et les chrétiens quittaient en masse, ce qui a baissé le nombre des chrétiens dans le pays de presque 70% à des estimations de 35 à 40%, entre guillemets. Il faut savoir que le recensement de 1732, c'était le dernier qui était fait. Est-ce qu'il est fiable? Parce qu'il est fait par le mandat français, on ne sait pas très bien. Mais depuis, on ne fait pas de recensement. Donc quand vous voyez quelqu'un libanais qui vous dit « on est 4 millions, on est 10 millions », c'est quelqu'un qui ne connaît pas très bien ce qui se passe. Il n'y a pas de recensement. Et on ne fait pas. C'est interdit. Parce que l'équilibre national demande qu'on n'en parle pas, parce qu'on a admis que les chrétiens sont tels, les musulmans sont tels, et que tout est réparti moitié-moitié. Donc ce qui fait que, avec une pression de l'extérieur, les Libanais qui vivent à l'étranger n'ont pas le droit de vote. Donc quand il y avait les élections à l'étranger, on ne vote pas. Il faut savoir qu'au Brésil seul, il y a presque 10 millions d'origine libanaise. Donc en France, 1,5 million, majorité chrétienne. Hein. Au Canada, 1 million. Australie, 1,5 million. L'Amérique, 1,5 million. Tous ces gens-là ne votaient pas, n'avaient pas le droit de vote. Jusqu'à récemment, là, avec l'arrivée du pouvoir actuel, le général Michel Aoun, avec son alliance avec une autre minorité en Orient qui sont les chiites, le Hezbollah, ils ont pu faire une pression et que la diaspora libanaise vote. Et on a vu le résultat, c'est que vu que la diaspora est majoritairement chrétienne, on a vu un parlement qui représente beaucoup mieux la voix des chrétiens parce que tout le monde a pu participer à cette élection étant même au diaspora. Je termine actuellement donc l'église maronite, donc elle est plantée au Liban avec 29 éparchies, diocèses, 50 évêques, 3 ordres monastiques d'ordre pontifical et plusieurs congrégations d'ordre patriarcal ou bien épiscopal normal, avec des écoles, une présence, des terrains, des propriétés très énormes. On ne peut pas parler de persécution des chrétiens au Liban, ça ne colle pas, mais on peut parler d'une persécution au niveau des lois, au niveau économique, vous voyez, au niveau de façon latente, hein, de façon latente. On parle de persécution de façon latente, et que l'Église fait face, à travers son intelligentsia chrétienne et maronite, faire face, donc, et pour qu'on puisse rester en Orient, mais actif, mais pas passif. Voilà, donc c'est en gros l'histoire du passé actuel. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci.